Vous écoutez France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940.
Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé ni des amours reviennent.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent, ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Au moment où commencent pour de bon les manifestations destinées à commémorer le 100e anniversaire du déclenchement de la Grande Guerre, on s'est interrogé ici ou là sur l'opportunité de mettre au Panthéon telle ou telle personnalité qui put en incarner les douleurs, les vaillances et les sacrifices. Le président de la République a préféré quatre hautes figures qui ont illustré la résistance au cours de la Seconde Guerre mondiale. L'idée sous-jacente paraît être que les résistants ont d'abord illustré des courages individuels, tandis qu'entre 1914 et 1918, l'énergie fut d'emblée collective et qu'elle demeure à jamais incarnée par le soldat inconnu. On s'est seulement demandé s'il ne serait pas légitime, par exception, aujourd'hui ou demain, de célébrer tels ou tels écrivains de haut lignage qui ont su parler juste et vrai durant la Grande Guerre au nom de millions d'autres. Guillaume Apollinaire figure au premier rang parmi ceux-ci. Et c'est d'abord sous cette lumière que l'émission de ce matin, la dernière de notre saison, va lui être consacrée. Car les décennies qui se sont écoulées depuis sa mort, qui fut concomitante avec l'armistice du 11 novembre 1918, n'ont pas cessé d'entretenir et de développer son rayonnement auprès d'un large public. C'est donc l'actualité d'Apollinaire, en dépit du siècle écoulé, dont nous allons tâcher d'éclairer les ressorts, grâce à la compétence de sa biographe, Laurence Campa, professeure à l'université de Paris-Ouest-Nanterre, dont les divers travaux, couronnés par un ouvrage récent qui est impressionnant et précieux, serve cette mémoire à merveille.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu'il m'en souvienne? La joie venait toujours après la peine. Vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Les mains dans les mains, restons face à face, tandis que sous le pont de nos bras passent des éternels regards. L'onde s'élance, vienne la nuit, sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. L'amour s'en va comme cette eau courante, l'amour s'en va comme la vie est lente et comme l'espérance est violente, vienne la nuit. Sonne l'heure, les jours s'en vont, je demeure. Passent les jours et passent les semaines, ni temps passé, ni les amours viennent. Sous le pont Mirabeau coule la Seine. Vienne la nuit, sonne.
Laurence Campa, bonjour.
Bonjour.
J'ai choisi de commencer par le poème peut-être le plus célèbre de Guillaume Apollinaire, mais interprété-là de manière moins connue par Michel Arnaud. On donne souvent l'interprétation de Léo Ferré avec la musique de Léo Ferré ici. Il s'agit d'une interprétation de 1954 avec une musique de Jacques Lasserie, Le Pont Mirabeau. C'est une des œuvres qui rayonne le plus aujourd'hui encore, non ?
Oui, parce qu'elle est, elle a apprise dans les écoles, par exemple. Hein. Elle est dans les manuels. Et puis, elle a cette simplicité. Ce n'est pas un hasard si il a été beaucoup mis en musique, parce que, justement, il rappelle le rythme de la chanson populaire. Et donc, on a beaucoup de facilité à s'en souvenir, avec le refrain, notamment.
Et nous sommes tout près de la maison de Radio France, où se déroule cette émission, n'est-ce pas, Laurence Campa ?
Oui, et alors ce pont était très intéressant parce qu'Apollinaire habitait juste à côté, rue Gros, en fait. Il a eu deux domiciles rue Gros. Le pont Mirabeau était un pont métallique particulièrement moderne. Donc on a encore une fois, comme toujours dans sa poésie, l'alliance entre une forme de modernité et une forme de tradition.
Eh bien, c'est de cela que nous allons nous entretenir ce matin en réfléchissant à ce que son œuvre peut avoir encore d'écho très très fort aujourd'hui. D'ailleurs, lui-même l'avait prévu, je relève dans son poème « Cortège ». Je relève ceci, tous ceux qui survenaient et n'étaient pas moi-même amenaient un à un les morceaux de moi-même. On me bâtit peu à peu comme on élève une tour. Cette tour s'est élevée depuis 100 ans.
Oui, elle continue de s'élever. Chacun, il gagne des lecteurs de jour en jour, de mois en mois, d'année en année. Et son aura a vraiment grandi pendant tout le siècle et continue encore plus depuis que l'année dernière, il est tombé dans le domaine public. Il appartient véritablement au patrimoine et à la culture française, ce qui n'était pas du tout le cas au départ.
Il avait quelques milliers de lecteurs qui était affectueux et admiratif et presque déférent au moment où il est mort, mais quelques milliers seulement.
Quelques milliers, il faut se souvenir qu'Alcool, c'était à peu près 600 exemplaires. Et Apollinaire était beaucoup plus connu comme critique d'art que comme poète. Et puis petit à petit, effectivement, Alcool est devenu, probablement avec Parole de Prévert, le recueil de la poésie française du XXe siècle le plus populaire.
Alors je voudrais que pendant l'heure qui s'ouvre, nous essayions de comprendre de quoi est tissée cette actualité, cette modernité majeure de Guillaume Apollinaire.
On pourrait dire d'emblée que c'est lui qui ouvre le siècle poétique par sa façon d'écrire, par ses innovations, ses inventions, et qui ouvre aussi le siècle artistique, puisqu'il a été là au moment de l'émergence des arts plastiques et de la naissance de l'abstraction et du cubisme.
Ce à quoi on est d'emblée très sensible, c'est à son cosmopolitisme. En une époque où la plupart des contemporains restent assez casaniers, même les artistes, ils représentent cette arrivée de partout, de force majeure dans l'ordre de la peinture, dans l'ordre de la poésie, dans l'ordre de la musique aussi, du côté de Paris.
Oui, d'abord un cosmopolitisme, si je puis dire, qui a été subi. C'est parce que c'était l'instabilité de sa famille, de sa mère notamment. Il naît à Rome par hasard, c'est un fils naturel. Il est fils d'une sorte de demi-mondaine, dépensière et joueuse, issue de la petite noblesse polonaise. Il ne connaît pas son père, on dira beaucoup de choses à ce sujet. Il vit d'abord en Italie jusqu'à l'âge de 6 ans. Il apprend à écrire et à lire en italien. Il parle avec sa mère plutôt en italien et en français, parce que sa mère avait été élevée par les Dames du Sacré-Cœur à Rome, en français, justement. Et puis, il va se retrouver, un peu par hasard aussi, sur la Côte d'Azur, à Monaco. Sa mère, suivant en fait l'itinéraire des casinos européens, se retrouve du côté de Spa et met ses enfants dans une petite pension à Stavelot, dans les Ardennes belges. Puis, ils vont revenir à Paris. Apollinaire va ensuite partir en Allemagne. Il va se fixer définitivement à Paris en 1902.
Sa mère est en somme une amoureuse pérégrine, mais une mère attentive.
Une mère attentive, une mère très croyante, très fervente, qui essaiera toujours de donner à ses enfants, puisqu'ils sont deux en fait, Apollinaire, un demi-frère, né 2 ans après lui, elle essaiera toujours de donner à ses enfants une éducation soignée, rigoureuse. C'est-à-dire que même déchue, elle n'oubliera pas qu'elle était issue justement de la petite noblesse et qu'ils devaient d'une certaine manière tenir leur rang.
Certains ont dit que son père était un prélat, c'est un fantasme.
Probablement, c'est parce qu'en fait, le père d'Angelica, donc la mère d'Apollinaire, le grand-père, donc, était camérier secret du pape Pie IX. C'était une fonction totalement honorifique qui lui apportait une sorte de sinécure. Et en fait, le grand-père a passé beaucoup de temps dans les couloirs du Vatican. Il est possible aussi que sa mère ait eu des amants dans les couloirs du Vatican. Et de fil en aiguille, la légende a dit qu'il était fils de prélat. Et donc, on a projeté sur son physique cette espèce d'onction sacerdotale qu'il n'avait probablement pas en fait à la base.
C'est ce que d'ailleurs on va retrouver dans ce témoignage, cette archive que j'ai exhumée pour vous, qui est un entretien avec Fernand d'Olivier, qui a été une des premières compagnes de Picasso, que l'on retrouve naturellement passant fréquemment dans la première partie de votre biographie d'Apollinaire, Laurence Campa. Fernand d'Olivier qui évoque ses souvenirs d'Apollinaire beaucoup plus tard, c'est une vieille dame, en janvier 1957, dans l'émission « Le bureau des rêves perdus » de Louis Mollion, sur la radio d'État.
J'ai connu Apollinaire un soir que Picasso avait vendu un dessin pour m'emmener dîner au Lapin Agile. Et Apollinaire était affolé, était content, il allait, il venait, il courait, il riait, il éclatait de rire, il avait un gros rire éclatant et il était très aimable. Un peu trop. Apollinaire était déjà un garçon, pas aussi gros que la fin, mais bien en chair, bien rond, avec sa figure longue, ses yeux en parenthèse, ses petits yeux rapprochés du nez, et puis sa petite bouche toute petite avec des mains de prélat. Il avait des mains extraordinaires. Et il s'amusait de tout. Et il amusait tout le monde. Il évoluait, il allait de fleur en fleur, c'est-à-dire de femme en femme, il était content. Et Mac Jacob le suivait en faisant des évolutions et en chantant des chansons avec une voix de femme. Apollinaire habitait d'abord au Vésinet, chez sa mère. Sa mère avait une auto, alors il nous a emmenés plusieurs fois au Vésinet, chez sa mère, qui nous recevait très bien, qui était très gentille. Pour nous, c'était le grand luxe, vous comprenez ? Tout était très fier, il y avait le chauffeur, c'est pas Apollinaire qui conduisait, il y avait le chauffeur. La mère d'Apollinaire était une femme qui avait de l'argent. Et nous dînions, nous déjeunions ou dînons chez la mère d'Apollinaire, et elle prenait toujours des rages. La mère d'Apollinaire était une femme extraordinaire, rageuse, coléreuse, qui battait ses bonnes, qui les enfermait dans les cabinets quand elle était fâchée, et puis après qui les couvrait d'argent. C'était une Russe. Je pense que c'était plutôt polonais, je ne suis pas sûre. Madame de Kostrowitski. Apollinaire s'appelait de Kostrowitski. Alors on disait qu'Apollinaire était le fils d'un prélat italien. Il en avait l'onction d'ailleurs. L'argent, il ne sortait jamais d'argent. Jamais il ne payait, jamais nulle part. N'est-ce pas ? Il attendait toujours qu'on paie pour lui. Je crois qu'il était plutôt avare. Et Marie Laurencin, qui était son amie, était assez regardante aussi. On nous invitait tous les mercredis à venir dîner. Et c'était tous les mercredis un risotto, un bœuf en daube.
Alors Laurence Campa, j'ai jugé utile de faire ressurgir dans la mémoire de Fernand d'Olivier, de faire ressurgir la personnalité de cette mère qui a sûrement compté dans l'élaboration de la personnalité de Guillaume Apollinaire.
Oui, il était très lié à sa mère. Il n'a pas arrêté de dire qu'elle était insupportable, qu'elle avait une âme slave. Et tous ceux qui ont connu Angelica, effectivement, ont pu dire qu'elle était haute en couleur, pittoresque, étrange, une personne de forte personnalité, dont on ne savait pas très bien d'ailleurs comment elle vivait. Probablement aussi du jeu, peut-être encore de la prostitution, etc. Donc quand Fernand dit qu'elle avait de l'argent, c'était certainement pas de l'argent lié à la famille, par exemple.
C'était prostitution de haut vol.
Je pense qu'à cette époque-là, en tout cas, elle-même ne se prostituait plus, mais on est à peu près certain que les bonnes en question n'étaient pas forcément uniquement des bonnes et qu'Apollinaire a dû servir parfois, dans les années 1907-1908, de rabatteur. En fait.
Allons bon.
Oui. C'est quelque chose qu'on prononce du bout des lèvres, mais qui...
Vous êtes une biographe impitoyable.
Impitoyable, non. Je pense qu'il avait besoin de vivre, de survivre, et puis c'était la façon dont la famille fonctionnait un petit peu jusqu'à ce qu'en 1908 il décide de vivre de sa plume.
Mais disons un mot alors des relations de Guillaume Apollinaire avec les femmes de son temps. Ce sont des relations qui apparaissent à bien des égards désuètes par rapport à aujourd'hui, non ?
Alors, ce qui est très amusant dans ce que dit Fernande Olivier, c'est qu'elle le présente comme un homme à femme. Alors que nous, aujourd'hui encore, nous avons cette perception qui est la perception du mal-aimé. La chanson du mal-aimé est devenue, parce que Apollinaire aussi a construit son personnage de poète ainsi, la figure du mal-aimé et la figure d'Apollinaire. On sait par ailleurs, et Fernande a raison, qu'il était très séducteur, qu'il a eu des maîtresses, et ça fait partie des raisons pour lesquelles Marie Laurencin a pas mal souffert pendant leur liaison qui a duré 5 ans, même si c'était une liaison très très sincère et très féconde.
Vous évoquez Londres à propos de la chanson du mal-aimé, un soir
de demi-brume à Londres.
De demi-brume à Londres. Ses premières amours se sont portées vers une gouvernante anglaise.
Oui, qu'il rencontre en fait quand lui-même est précepteur d'une jeune Allemande en Allemagne, en Rhénanie. Et donc, il tombe amoureux de cette jeune gouvernante anglaise, Annie Pleyden, qui minaude Marivaud, se laisse séduire, mais pas vraiment. On pense que ce n'est pas allé vraiment jusqu'au bout. Et puis, qu'il a fait beaucoup patienter. Et puis, quand il est rentré en France en 1902, il n'a eu de cesse d'essayer de se rapprocher d'elle. Donc, il fait 2 voyages. En Angleterre, pour la rejoindre, elle lui donne de faux espoirs. Et puis, en 1905, elle quitte précipitamment l'Angleterre pour
les États-Unis.
Les États-Unis. Et là, il sait que définitivement, tout est fini. Il reprend un grand poème qu'il avait ébauché avant et qui deviendra la chanson du mal-aimé, mais qui ne sera publié que bien des années plus tard, en 1909, grâce à Paul Léoto dans le Mercure de France.
Marie Laurencin, évidemment, qui est une peintre considérable. Marie Laurencin nous intéresse davantage parce qu'elle nous introduit très directement, en même temps qu'Apollinaire, dans le monde des peintres et aussi des musiciens. Et c'est un trait qui frappe aujourd'hui, cette rencontre entre les différents arts.
Oui, Marie, après avoir étudié la peinture sur porcelaine à Sèvres, avait étudié avec Braque. Donc elle connaissait Braque avant Apollinaire, en fait. Et puis c'est grâce à Picasso que Apollinaire et Marie se sont rencontrés chez Clovis Sago, qui était un ancien clown devenu galeriste. Ça a été à peu près un coup de foudre immédiat. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se sont développés ensemble. C'est-à-dire que Apollinaire, grâce justement à Marie, a pu vivre une sorte de renouveau à la fois poétique et sentimental à partir de 1907. Et Marie, qui faisait encore des choses intéressantes, mais peut-être manquait un petit peu d'envergure, a été portée aussi par cet amour et par la fréquentation des peintres. Et c'est certainement là, jusqu'à la guerre de 14, qu'elle a eu sa plus belle période, avec une dimension cubiste, mais mêlée d'influences assyriennes, babyloniennes, etc., qui font qu'on la reconnaît bien. On reconnaît tout de suite un tableau de Marie. Et donc tous les deux vont fréquenter les ateliers et puis vont assister à l'émergence justement du cubisme porté par Braque et Picasso et aussi à la naissance de l'abstraction. Ils vont fréquenter Picabia, Duchamp notamment.
Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas le regarder sans quelques nostalgies. Ce monde qu'Apollinaire a d'emblée fixé dans ses critiques artistiques, et c'est comme ça d'abord qu'il est connu, ce monde qui était un peu celui de Montparnasse entre les deux guerres aussi, s'éloigne.
Je crois qu'on a une forme de nostalgie, en effet. On est fasciné par cette effervescence. Paris était vraiment le centre du monde. C'était le phare. Il y avait déjà un phare qui tournoyait en haut de la Tour Eiffel, comme aujourd'hui. Paris attirait tous les étrangers. On venait de partout, d'Oslo, de Berlin, de Milan, de Florence, des États-Unis, de Londres, d'Espagne, de Barcelone, pour vivre et travailler à Paris.
On voudrait que cette actualité, à cet égard, soit plus prégnante aujourd'hui.
Oui, on a perdu certainement quelque chose comme
une part. En tout cas.
Comme une part d'effervescence, d'enthousiasme. Ce qui était très intéressant aussi, c'est qu'ils parlaient tous français. Quand j'ai publié avec Peter Hill la correspondance d'Apollinaire avec les artistes, on s'est aperçu que pratiquement tous écrivaient en français, plus ou moins bien, mais s'exprimaient en français. Et donc tout le monde était à Paris, tout le monde venait passer par Paris ou habiter Paris parce que c'était là que les choses se faisaient, en concurrence quand même avec Berlin ou encore avec Milan. Paris était vraiment, oui, le centre du monde artistique. C'est là que les choses se faisaient. Et Apollinaire faisait partie de ceux qui étaient au cœur de ce creuset absolument phénoménal qui a donné naissance en fait à l'art moderne, parce que c'est là que finalement l'abstraction se met à germer, à naître. Et ce qui se passe en fait, et c'est encore là-dessus qu'on vit, et c'est pour ça qu'on est encore très attiré justement par cette période-là, en fait il y a eu un changement de regard absolument capital. Aujourd'hui, quand on voit des tableaux cubistes, on est d'une certaine manière habitué, on a les choses dans l'œil. Mais à l'époque, il faut se souvenir que c'était vraiment une révolution absolument radicale. Apollinaire a accompagné ce changement de regard.
Il y a contribué très fortement.
Il y a largement contribué, puisqu'il a quand même défendu à un moment où c'était extrêmement difficile. Et d'ailleurs, il faut penser à Marcel Samba, député socialiste, ministre, montant à la tribune de l'Assemblée nationale en octobre 1912 pour défendre le cubisme contre les conservateurs et les réactionnaires qui accusaient déjà, donc ça ne datait pas de la guerre, qui accusaient déjà les cubistes de malmener l'art français.
Sa femme était elle-même une artiste, la femme de Samba.
Oui, c'était Georgette Agut qui était une élève de Matisse, justement, et qui a connu un petit peu Apollinaire.
Vu d'aujourd'hui, Apollinaire paraît, à cet égard, comme critique d'art, comme ami de ses peintres, armé d'une remarquable prescience.
On peut le dire aujourd'hui, mais en fait, tout au long du siècle, on a plutôt critiqué cette vision. C'est-à-dire qu'on a longtemps dit, pour des raisons diverses, et notamment parce que les peintres sur le tard, je pense à Braque par exemple, avaient eu des témoignages un petit peu sceptiques. On a longtemps dit qu'il n'était pas un critique d'art, tout simplement parce qu'il n'était pas un théoricien de l'art. Il était plutôt dans la sensation, dans l'accueil, dans la vision, comme vous dites. Et donc, pendant très longtemps, on a pensé qu'il n'avait pas de regard, finalement. Et c'est, il a fallu beaucoup de travaux, il a fallu aussi qu'on s'habitue à certaines œuvres, à certaines évolutions de l'art contemporain, pour pouvoir se dire, mais non, en fait, c'est lui qui avait bien vu, qui avait bien compris. Il faut penser aussi qu'à l'époque, la partie était extrêmement difficile à jouer. Et que défendre Marcel Duchamp en 1913, c'était vraiment un risque. Il y avait très peu de gens qui ont parlé de Picasso en 1905, Apollinaire en fait partie, il y avait Charles Maurice aussi. En 1912-1913, parler de Duchamp, qui était très très peu connu, moins connu que ses deux frères par exemple.
Ses deux frères, c'est-à-dire
Raymond Duchamp-Villon et Jacques Villon.
Pour faire ressurgir ce personnage d'Apollinaire, je vais faire fond sur les souvenirs de Jean Cocteau, qu'il a connu un peu plus tard, mais qui en parle d'une façon qui me paraît pertinente. Voilà l'extrait d'une causerie du 11 novembre 1943, Apollinaire par Cocteau.
Apollinaire habitait boulevard Saint-Germain, dans un dernier étage, plusieurs petites pièces reliées les unes aux autres par des escaliers de navire. Il s'y mouvait, il y déchiffrait les astres, il y hissait ses voiles en uniforme bleu, sous un émouvant turban de linge, parmi les statues nègres, les toiles cubistes, les livres, les jeunes revues, ses portraits de Marie Laurencin et du douanier Rousseau. Il écrivait, dans la plus haute cabine, où ses fétiches de navigateur était un exemplaire des serres chaudes de Maeterlinck et l'oiseau du Bénin sur ses pattes de cuivre. Il avait la voix courte comme essoufflée. Ses yeux, ses doigts semblaient ne toucher que des choses exquises et légères. Je ne sais pas pourquoi, je l'imagine toujours en train de dérouler le fil de quelques cerfs volants. Je pense aussi à ses hardiesses aériennes lorsque Notre-Dame porte le gui charmant d'un échafaudage. Il savait que l'ange de la poésie boite et louche, et qu'il en tire ses grâces. Son souffle givrait les vipes. Il n'avait qu'à attacher une feuille, la plier et la déplier pour épanouir les terribles dentelles du rêve. Apollinaire n'avait qu'à copier une affiche, un entrefilet de journal, un télégramme oublié au bureau de poste. Immédiatement se produisait une métamorphose, car, fils d'Apollon, il tenait du dieu le privilège de pouvoir changer un arbre en jeune fille et n'importe quoi en merveille. Sorti de sa chambre, ce roi lune aimait les camarades et flânait avec eux jusqu'au point du jour où rôde le fiacre de Fantômas. Combien de fois déambulâmes-nous le long de cette scène qu'il disait maintenue par des livres. D'autres vous parleront du détail de son œuvre. Je ne veux apporter ici qu'un hommage à la grâce faite homme, un signe de tendresse à cet anarchiste aristocrate, un salut à cette rose des vents. Guillaume Apollinaire fut le troubadour du grand tournoi où Matisse, Picasso, Braque, Derain, Quiricot dressent leurs statures gigantesques, leurs poitrines héroïques et leurs armoiries.
Alors, vous le retrouvez là, votre cher Apollinaire, Laurence Campal, anarchiste, aristocrate, la grâce fait homme, une rose des vents. Cet homme est très très ouvert à toutes les vitalités de son temps.
C'est un très très bel hommage que Cocteau lui rend, et effectivement qui synthétise parfaitement Apollinaire, à la fois cerf-volant, rose des vents, amateur de Fantômas. Et ce qui probablement caractérise vraiment le poète et qui nous touche, et qui me touche moi en tout cas encore aujourd'hui, c'est cette immense curiosité, cette absence de préjugés pour les hiérarchies. Et c'est ça aussi qu'il nous a appris et sur lequel nous vivons encore aujourd'hui, c'est-à-dire cette volonté de ne pas répondre au canon, de ne pas hiérarchiser, de voir la poésie partout aussi, aussi bien dans les affiches, dans la vie moderne, dans les trains, dans les paquebots, dans les avions, que dans Fantômas, mais sans oublier jamais la tradition, puisque effectivement il commence par écrire en s'inspirant du symbolisme, hein, jusqu'à L'Enchanteur pourrissant, qui est son premier livre en 1909, illustré par André Derain, de très très belles gravures sur bois. Il est encore lié à la période qu'il précède, mais il annonce aussi la période qui suit.
Cette curiosité universelle vous paraît sonner, résonner très, très contemporain ?
Moi, je dirais que c'est une sorte de leçon, un regard à porter sur les choses, en fait. Et puis, sur l'idée que la poésie, justement, n'est pas enfermée dans un genre, dans un vers, dans un...
Dans les 14 vers d'un sonnet.
Voilà, par exemple, mais qu'elle peut être partout. Et c'est une leçon que les surréalistes apprendront de lui, justement. Et ce dont parle Cocteau aussi, c'est cette flânerie perpétuelle, cet accueil, hein, cette espèce de merveilleux dans le quotidien que vont développer aussi Aragon, Breton et tous les surréalistes. Et ça, c'est Apollinaire qui ouvre cette voie-là. C'est-à-dire la possibilité, en sortant du studio 153, d'aller flâner au bord de la Seine et d'accueillir les choses qui adviennent.
C'est ce que vous allez faire tout à l'heure ?
Je pense que je n'aurai pas le temps de faire ça, malheureusement. La vie moderne ne permet pas forcément la flânerie.
Alors, nous avons évoqué Apollinaire comme critique, comme passeur jusqu'aujourd'hui d'un certain nombre des talents ou des génies de son temps. Il commence aussi d'être poète, mais assez tard en somme.
En fait, il écrit de la poésie très tôt, mais il ne publie pas tout de suite. Contrairement à quelqu'un comme André Salmon, par exemple, qui publie son premier recueil en 1907, il met énormément de temps à publier son premier recueil, qui sera Le Bestiaire en 1911, illustré par Dufy, une très belle gravure sur bois aussi, dans un genre totalement différent de celle de Derain.
Il a 31 ans.
Et oui, il a quand même 31 ans et tout le monde attend quelque chose de lui, mais le recueil majeur, celui que tout le monde attendait, c'est Alcool, qui retrace son itinéraire poétique depuis 1898, c'est-à-dire ses premiers essais aboutis, jusqu'en 1912, Zone, Le Pont Mirabeau et Vendémiaire.
Eau de vie, c'était le titre antérieur de Alcool.
Oui, c'était le titre antérieur et c'était un titre qui était peut-être un peu plus symbolique et symboliste, d'une certaine manière. Alors qu'alcool, au pluriel, évoque justement cette distillation, cette métamorphose du réel, qui permet justement d'épurer les sensations et d'en faire de purs matériaux poétiques.
Il y a aussi l'expérience de la prison qui est intéressante.
Oui, on retrouve d'ailleurs cette expérience dans Alcool, dans une petite section qui s'appelle « À la santé », où on a bien justement toute l'ambiguïté constante d'Apollinaire. Cocteau évoquait tout à l'heure son goût de la provocation et de la mystification, on pourra y revenir. « À la santé », c'est à la fois « Je bois à votre santé », mais c'est aussi « J'ai passé une semaine à la santé ».
Alors pourquoi, rappelez-nous, cette affaire de statuette.
C'est un malheureux concours de circonstances, c'est-à-dire qu'en fait, en 1907, l'un de ses amis, enfin une de ses relations, un belge mythomane et dépensier, avait volé au Louvre, non pas des statuettes, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui, c'est resté dans les annales sous cette forme-là, mais c'était des têtes en pierre phénicienne et ibérique. Et donc, en fait, il les avait volées au Louvre et les avait revendues à Picasso, qui les a eues sous les yeux pendant qu'il peignait les Demoiselles d'Avignon.
Devant une opinion qui était très émue à l'époque par le vol de la Joconde, qui était plus grave.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le malheureux concours de circonstances, c'est que Pierret, donc cet aventurier...
Géry Pierret,
cet aventurier belge, avait commis un nouveau larcin en 1911 au Louvre et avait apporté le larcin à Apollinaire. Dans l'enquête sur le vol de la Joconde, on est retombé sur d'autres vols commis au Louvre, on est tombé sur Géry Pierret. Apollinaire s'est aperçu que Picasso ne s'était jamais dessaisi de ces fameuses têtes en pierre qu'il avait gardées chez lui, donc ils ont voulu les restituer en passant par un quotidien dans lequel Apollinaire travaillait qui s'appelait Paris Journal.
Mais cette année,
et finalement, les enquêteurs sont arrivés jusqu'à lui et il a été emprisonné pour complicité de vol. Il a été après mis hors de cause, mais pendant une semaine, il est resté enfermé tout seul, isolé. ce qui est assez étonnant, et on suppose que c'est parce que justement il était déjà journaliste et critique d'art assez connu. D'ailleurs, pendant qu'il était sous les verrous, il y a eu d'un côté de nombreuses pétitions pour défendre sa cause en disant qu'il était vraiment innocent et qu'il n'avait écouté que son bon cœur, mais de l'autre côté, des attaques xénophobes extrêmement virulentes, notamment de la part de l'Action française, qui pensait que c'était un juif, qui faisait partie d'une bande internationale, etc. Et donc il s'est retrouvé finalement attaqué dans son identité même. C'est-à-dire que jusqu'à présent, lui, qui n'avait jamais été inquiété parce qu'il était étranger, se retrouvait justement renvoyé à son identité incertaine. Et c'est à ce moment-là qu'il songe à demander la nationalité française. Et ça va ressurgir 3 ans plus tard.
Il a toujours quelque chose qui le distancie par rapport à l'évidence de la réalité. Je pense notamment à son humour et je pense à son goût des canulars. Il écrit pendant un certain temps sous le nom de Louise Lalanne des chroniques dont l'auteur met quelque temps à être identifié, c'est-à-dire
oui,
lui.
Oui, c'était assez audacieux d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, au départ, on cherchait une femme pour la critique littéraire féminine des marges. Et puis personne ne voulait le faire. Et donc Apollinaire s'est dit, je vais le faire moi-même. Je vais me travestir. Et donc il a pris un nom de plume, effectivement. Donc pseudonyme du pseudonyme, puisque Guillaume Apollinaire est déjà un pseudonyme. Il s'est mis à écrire sous le nom Louise Lalanne et tous les hommes de lettres ont donné dans le panneau. Il a fait une révélation quelques semaines plus tard en disant qu'elle avait été enlevée, qu'elle avait disparu et qu'elle avait été enlevée par un officier de cavalerie.
Ça annonce le fameux Botule, ce philosophe contemporain imaginaire qui avait fait quelques bruits, si je puis dire, il y a voici 3 ou 4 ans.
Oui, c'était une tradition aussi à Montmartre, parce qu'après tout, Dorgelès avait inventé Boronali, peintre futuriste qui était en fait l'âne du lapin agile.
Boronali, il faut dire Ali Boron
Ali
à l'envers.
Boron, absolument. Et donc, il voulait se moquer finalement de la peinture futuriste et de la peinture abstraite.
C'est aussi l'époque où 2 journalistes d'extrême droite inventent et Jésip Simon, précurseur de la démocratie, vient piéger un certain nombre de parlementaires.
Absolument.
Je voudrais que maintenant nous en venions à cette guerre de 14-18 dont je parlais tout à l'heure en commençant. Écoutez ce poème de Guillaume Apollinaire, La Petite Auto, qui est un peu ultérieur et qui évoque l'entrée en guerre juillet-août 1914. Et il est ici lu par Pascal Mazzotti dans l'émission du 26 décembre 1961 qui s'intitulait Le cubisme et son temps.
Le 31 du mois d'août 1914, je partis de Deauville un peu avant minuit dans la petite auto de Rouvert. Nous dîmes adieu à toute une époque. Des géants furieux se dressaient sur l'Europe. Les aigles quittaient leur aire, attendant le soleil. Les poissons voraces montaient des abîmes. Les peuples accouraient pour se connaître à fond. Les morts tremblaient de peur dans leur sombre demeure. Les chiens aboyaient vers là-bas où étaient les frontières. Je m'en allais portant en moi toutes ces armées qui se battaient. Je les sentais monter en moi et s'étaler les contrées où elles serpentaient, avec les forêts et les villages heureux de la Belgique, Francorchamps avec l'eau rouge et les Pouhons, région par où se font toujours les invasions, artère ferroviaire où ceux qui s'en allaient mourir saluaient encore une fois la vie colorée. Je sentais en moi des êtres neufs pleins de dextérité bâtir et aussi agencer un univers nouveau. Je n'oublierai jamais ce voyage nocturne où nul de nous ne dit un mot. Ô départ sombre où mouraient nos 3 phares, ô nuit tendre d'avant la guerre, ô village où se hâtaient les maréchaux ferrants rappelés entre minuit et 1 heure du matin, vers Lisieux la Très Bleue ou bien Versailles d'or. Et 3 fois nous nous arrêtâmes pour changer un pneu qui avait éclaté. Et quand, après avoir passé l'après-midi par Fontainebleau, nous arrivâmes à Paris, au moment où l'on affichait la mobilisation, nous comprîmes, mon camarade et moi, que la petite auto nous avait conduits dans une époque nouvelle. Et bien qu'étant tous deux des hommes mûrs, nous venions cependant de naître.
Alors rappelez-nous ce qu'a été son parcours pendant la guerre, de combattant en particulier.
Il faut se souvenir que donc au départ, il n'est pas français. Quand la guerre éclate, il est officiellement sujet russe polonais. Donc déjà, il a une petite chance, c'est qu'il n'est pas allemand ou il fait partie quand même d'une nation amie. Ce qu'il va faire immédiatement, c'est bénéficier de la loi du 5 août 1914 qui permet aux volontaires étrangers qui s'engagent dans l'armée française de voir leur naturalisation accélérée, simplifiée, etc. Blaise Cendrars fait exactement la même chose.
Cette naturalisation dont il rêve déjà.
Et en même temps, il avait été un petit peu négligent puisqu'il n'avait pas poussé, il aurait très bien pu utiliser ses contacts et ses relations pour pousser cette naturalisation avant, mais il est poète, il avait autre chose à penser. Et là, effectivement, il y a une forme d'urgence parce qu'il pourrait se faire expulser ou bien se retrouver dans un camp de concentration, comme on disait déjà à l'époque, même si ce n'était pas la même chose que ce qu'on a connu après. Il voit tous ses amis se disperser, être mobilisés, et il ne peut pas songer une minute qu'il se tiendrait à l'écart de l'action collective. Donc ça, c'est une des premières raisons de son engagement. Une autre raison aussi, c'est qu'il est français de cœur. Il habite quand même en France depuis longtemps. Il est poète français. Il s'exprime en français. Il n'écrit pas dans une autre langue. Il veut défendre aussi sa terre d'accueil, cette terre qu'il a accueillie très tôt et dans laquelle il est devenu poète. Et puis, il faut se souvenir que son grand-père, avant d'être camérier secret du pape Pie IX, avait été blessé à Sébastopol. Il avait été capitaine d'artillerie des armées du Tsar.
En Crimée, pendant la guerre, entre les Français et les Anglais d'un côté et les Russes de l'autre.
Et il avait été blessé à la tête et probablement ne s'en était pas vraiment remis, même si c'était déjà au départ un tempérament tout à fait étrange. Et il y a ça, et puis il y a aussi dans l'esprit d'Apollinaire une forme de romantisme qui est peut-être absente de certains autres engagements, c'est-à-dire qu'il se situe d'emblée dans une tradition d'hommes de plumes et d'épées. C'est-à-dire qu'il pense immédiatement à Vigny, il pense immédiatement à Daubigné ou encore à Laclos, l'auteur des Liaisons dangereuses, qui était lui-même artilleur. Et donc, il veut s'engager sans aucune restriction et probablement, si on voulait aussi une justification peut-être plus intime, peut-être par orgueil viril. Il ne s'agissait pas justement de s'embusquer ou d'échapper à la chose. Pourtant, on lui avait proposé de partir en Espagne ou en Suisse. Il a refusé, justement.
Rappelez-nous son parcours militaire, Laurence Campa.
Il fait une demande d'engagement et de naturalisation qui est repoussée, sine die, par les autorités militaires. Et donc, il se retrouve, d'une certaine manière, désœuvré dans un Paris déserté. Et sur l'invitation d'un ami, il part à Nice, sur la Côte d'Azur, où il rencontre Louise de Coligny-Châtillon, qui va devenir la fameuse Lou, son inspiratrice. Et puis, il finit par contracter un engagement en décembre 1914 et va faire ses classes à Nîmes dans l'artillerie de campagne à partir de décembre 14. Il va faire ses classes jusqu'au mois d'avril. Ensuite, va se porter volontaire pour le front et va partir le jour de Pâques 1915 pour le front de Champagne, où il va d'abord servir dans l'artillerie, comme agent de liaison notamment. Il va changer plusieurs fois de secteur et il va participer en septembre, à la fin de septembre 1915, à la deuxième offensive de Champagne, pendant que Blaise Sandrard, justement, lui, légionnaire, arrivera sur le même front et perdra son bras lors de l'assaut de la ferme de Navarin, c'est-à-dire à quelques kilomètres, son bras droit, son bras d'écrivain. À quelques kilomètres d'Apollinaire. Là, Apollinaire est chef de pièce, c'est-à-dire qu'il commande directement le canon. Et puis, à partir de novembre 1915, il décide de passer dans l'infanterie, ce qui est une aberration au regard des conditions ordinaires de la vie militaire. Ses amis se récrient, personne ne comprend pourquoi.
Beaucoup plus dangereux.
Beaucoup plus dangereux, mais il voulait devenir officier. Et il savait que dans l'artillerie, territoire privilégié des polytechniciens et des gens de cet acabit, il était impossible d'évoluer. Et d'autre part, certainement, il illustre ce que Sandrard dit dans la prose du Transsibérien, c'est que quand on est poète, il faut savoir aller jusqu'au bout. Donc il y a quelque chose d'un petit peu jusqu'au-boutiste chez lui.
Qui aboutit finalement à sa blessure.
Et qui aboutit à sa blessure en mars 1916. Il est alors français depuis uniquement 8 jours et il est blessé à la tempe droite, d'un éclat d'obus. Et il va être donc évacué, soigné, trépané en mai 1915 à Paris et va être obligé de vivre une très longue convalescence avec des problèmes neurologiques. Et du coup, il va devenir beaucoup plus grave. Il va, comme beaucoup de soldats qui sont passés par le front, il va vieillir d'un coup, d'une certaine manière, en gardant toujours cette curiosité, cet enthousiasme, mais avec une gravité. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il se doit aussi bien aux morts qu'aux vivants. Sa poésie, d'une certaine manière, change un peu de ce point de vue-là.
Et la mort le rattrape avec
et la mort le rattrape grippe espagnole. Sous la forme de la grippe espagnole. Et il meurt en 3 jours, le 9 novembre 1918, c'est-à-dire 2 jours avant l'armistice. Et il sera enterré au Père Lachaise le 13.
Deux jours après.
Il faut imaginer, justement, dans la liesse relative de l'armistice, je dis relatif parce qu'il y avait aussi beaucoup d'autres, j'imagine, convois funèbres, des mutilés, des veuves, des orphelins qui étaient aussi dans cette foule de l'armistice. Ce convoi funèbre d'Apollinaire qui part du boulevard Saint-Germain et qui traverse tout Paris pour arriver jusqu'au Père Lachaise.
Qui incarne finalement cette dialectique du bonheur de la victoire et du deuil effroyable. Exactement. Du prix qu'il a fallu payer.
Exactement. Et justement, c'est à la fois la joie et les larmes. Et je me suis souvent demandé ce que lui, justement, aurait pensé de ce téléphone. télescopage entre la joie et la peine, entre la gaieté, l'enthousiasme et la tristesse et la mort.
Alors suivons, si vous le voulez bien, Apollinaire pendant ces années décisives, décisives pour l'homme, décisives pour le poète. Et d'abord, ce poème qui s'appelle « Mon cher André Dupont », André Dupont est un de ses amis, un poème de 1915, lu par Jean-Louis Trintignant en 2004, il est encore dans le midi.
« Mon cher André Dupont, merci de votre carte. Votre douce tartine est mère de ma tarte. J'ai tant aimé les arts que je suis artilleur. Il a fait bien mauvais, aujourd'hui c'est meilleur. L'artillerie est l'art de calculer les angles. La cavalerie, celui de bien serrer les sangles. Voilà tout le secret de la guerre où nous sommes. Le reste est dans la joie et la vertu des hommes. J'ai sur un grand cheval fait 6 heures de route, genoux en sang. Mais que voulez-vous que ça foute? Tant d'hommes sur le front meurent en ce moment que c'est un vrai plaisir de saigner seulement. Il vente, il fait un froid de loup, la nuit est claire. Écrivez-moi souvent, Guillaume Apollinaire. »
Nous sommes là à un moment où il ne connaît pas encore le front, où il le rêve, mais il a cette étonnante plasticité qui est un des traits de son caractère, me semble-t-il, et qui lui permet de sentir, même à distance, ce qui est en train de se passer.
C'est quelque chose qui continuera quand il sera sur le front, c'est-à-dire qu'il est toujours, il se vit toujours double, c'est-à-dire poète et soldat. Ce qui est amusant dans ce qu'on vient d'écouter, c'est d'abord ce goût du calembour qu'il ne quitte jamais et qui rejoint ici une tradition toute soldatesque. Il faut bien rire un peu quand on est à la guerre, sinon on ne pourrait pas tenir, et ça c'est une tradition très très ancienne.
Art de l'artilleur.
Oui, voilà, j'ai tant aimé les arts que je suis artière, avec un jeu de mots dont il a le secret. Et puis, c'est aussi cette dimension épistolaire, c'est-à-dire qu'il écrit à ses amis. Dupont, alors, qui était un littérateur de son entourage, est déjà sur le front. Il mourra criblé par des éclats d'obus à Douaumont en 1916. Là, il est déjà sur le front. Et donc, ces hommes s'écrivent en vers, justement. Elles font partie de toutes ces lettres, ces millions de lettres qui ont été échangées et qu'aujourd'hui encore, on exhume, on retrouve, on publie.
Apollinaire, au niveau qui est le sien, figure en somme parmi tous ceux-là.
Oui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et ce qui nous semble aujourd'hui une évidence ne l'a pas été justement, parce qu'il y a eu toute une tradition où on a contesté son engagement, ça vient des surréalistes notamment. Pendant très longtemps, Apollinaire a quand même été l'homme, le poète de « Adieu que la guerre est jolie ». Et donc ça fait peut-être... une dizaine d'années, qu'on finit par d'abord lire le poème jusqu'au bout, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un poème de la désillusion, un poème du mal d'amour qui finit par une mort tout à fait certaine. C'est un poème tragique, extrêmement, extrêmement triste, et non pas du tout un poème claironnant, contrairement à ce que le premier vers, très ambigu, pourrait faire penser. Pendant très longtemps, Apollinaire a fait figure justement de chantre de la guerre, ce qu'il n'était pas du tout, même si effectivement il a soutenu l'effort de guerre à la manière d'un homme fraîchement naturalisé qui ne voulait pas émettre publiquement, en tout cas, quelques restrictions que ce soit dans son engagement.
Cela lui a valu néanmoins, à l'époque et surtout ensuite, de la part d'un certain nombre d'autres écrivains qui ont regardé cette guerre d'une manière tout autre que lui, de façon moins patriotique et plus désespérée, cela lui a valu des critiques importantes. Par exemple, celle d'André Breton, qu'il a beaucoup admiré. Apollinaire est un des premiers à avoir employé l'expression « surréalisme ».
C'est le premier, c'est lui qui l'a inventé même. Et donc Breton la lui a prise en l'infléchissant, en se l'appropriant en fait.
Alors écoutez André Breton parlant d'Apollinaire. C'est un entretien avec André Parineau du 28 février 1952.
Comment Apollinaire se comporta-t-il devant la guerre ?
On sut très vite qu'il s'était engagé dans l'armée. Ceux de ses amis qui avaient pu rester en contact se communiquèrent ses nouveaux poèmes. Y passait toujours la même flamme, mais rien n'y marquait une prise de conscience appréciable des événements. Tout se résolvait par un enthousiasme à coup sûr sincère, mais qui rejoignait alors l'enthousiasme de commande et, en dépit de l'expression toujours très neuve du sentiment, ne laissait pas pour moi de verser dans le conformisme. Devant l'effroyable fait de guerre, Apollinaire avait réagi par une volonté de plonger dans l'enfance, de réanimisme à tout prix, qui était très loin d'être le talisman espéré. Quelles que soient les grandes réussites qu'il ait retrouvées dans cette voie, je pense à des poèmes tels que « La nuit d'avril 1915 », J'estime qu'en sa personne, la poésie avait été incapable de surmonter l'épreuve. Elle se trouvait à mes yeux frappée d'insuffisance.
Breton est extrêmement sévère. La poésie frappée d'insuffisance en la personne d'Apollinaire. Il a très bien compris, effectivement, par ailleurs, ce que voulait Apollinaire, c'est-à-dire faire de la poésie de l'enfance une forme de talisman contre la destruction. Mais il estime que c'est un échec. Il dira qu'il allait tellement de l'avant, un peu plus tard, dans son entretien avec Parinaud, il allait tellement de l'avant, quitte à donner dans l'envers du décor. Donc lui aussi, il utilise un calembour pour condamner, finalement, l'engagement d'Apollinaire. Il faut penser que Breton est de la génération suivante. Et donc, il arrive dans la guerre en tant que jeune médecin. Il arrive dans la guerre à un moment où la guerre est déjà largement enlisée. Et déjà, il n'est pas du tout dans l'enthousiasme relatif, on va dire, des débuts.
Elle n'est pas jolie du tout.
Elle n'est pas jolie du tout, elle ne l'a jamais été, et elle ne sera à aucun moment. Et les futurs surréalistes sont vraiment dans le déni de la guerre, dans le refus de la guerre, la condamnation de la guerre. Donc ils ouvrent une tradition contestataire de ce point de vue-là. Apollinaire comme Sandrart, d'ailleurs, ne seront plus compris. Et on a vécu très longtemps sur cette conviction-là. En fait.
Les surréalistes, de ce point de vue-là, portent un coup très dur pendant un certain temps. À l'image d'Apollinaire.
Absolument. Et en plus, les lecteurs ont pensé qu'effectivement, Calligramme était moins réussi pour des tas de raisons, et notamment pour celle-ci, que Calcol. Et puis, les efforts de différents chercheurs, le recul, la mort des derniers témoins font aussi qu'aujourd'hui, on voit les choses un petit peu autrement, à tel point qu'elle se retourne complètement, c'est-à-dire qu'Apollinaire est devenu le grand poète de guerre français. Il y a sans doute l'idée que nous n'avions pas de poète français comme les Anglais. Ont leur poète et leur poète's corner à Westminster. On n'a pas Owen, on n'a pas Sassoon, etc.
C'est d'ailleurs pourquoi certains ont évoqué la possibilité, je le disais tout à l'heure, de mettre un ou deux grands écrivains au Panthéon, puisqu'il aurait été incongru d'y mettre des chefs militaires.
En France, on est dans une tradition plutôt de prose. Donc, quand on pense à la guerre de 14 et aux grands témoins, on va penser à Genevoix, on va penser à Barbus, à Dorgelès, à Georges Duhamel, par exemple. Mais on n'avait pas véritablement de tradition poétique. Plus exactement, cette tradition poétique avait été occultée parce que, notamment, elle avait tutoyé la propagande, le bourrage de crâne, le soutien de l'effort de guerre, même si ce n'était pas que ça.
Vous pensez donc, Laurence Campa, que Apollinaire trouve, si je vous comprends bien, une actualité plus grande comme poète par ce qu'il a exprimé aujourd'hui, au moment du centenaire, que ce n'aurait été le cas il y a 50 ans ou...
Oui, très probablement. En plus, il est une incarnation chez lui de deux choses qui me semblent assez importantes. C'est déjà la blessure à la tête, dont Annette Becker parle très bien. Cette blessure qui, d'une certaine manière, symbolise et incarne le sacrifice des écrivains français, puisqu'ils sont plus de 500 inscrits au Panthéon.
Annette Becker qui a consacré un livre précisément à Apollinaire combattant.
Et puis, la deuxième chose aussi qui me semble très intéressante, c'est que Apollinaire, c'est l'étranger qui se met au service de la France. Et ça, c'est une perception tout à fait nouvelle. Jusqu'à présent, si on reprend justement Genevoix, Barbus, Dorgelès, c'était des Français mobilisés. Tandis que là, on a le personnage d'un poète qui s'engage au service de la France et qui devient français sous les armes. Et là, il y a quelque chose de très fort. Et ce n'est pas par hasard qu'on a attaché aussi le nom d'Apollinaire et la poésie d'Apollinaire à la mort de notre dernier poilu, qui était lui-même un Italien engagé volontaire, Lazare Ponticelli.
D'ailleurs, quand Stéphane Hessel, qui n'était pas un combattant de 14-18, mais qui était plus que nonagénaire et qui avait acquis une notoriété, une célébrité mondiale très tardive, comme on sait. Les funérailles de Stéphane Hessel ont eu lieu dans la cour des Invalides. Et après le très beau discours de Jean-Louis Crémieux-Briac, c'est Carole Bouquet qui a lu la Jolie Rousse, qui était le poème préféré de Hessel. Permanence, présence d'Apollinaire.
Oui, d'autant qu'Apollinaire avait connu sa mère. Hélène Hessel, donc en fait, c'est pareil, il n'y a pas de hasard.
Jules et Jim.
Voilà, exactement.
Alors, il faut qu'on l'entende, ce poète. Et j'ai choisi, parmi tant d'autres œuvres possibles, Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée. C'est un poème adressé à Lou, que vous évoquez tout à l'heure, un de ses grands amours de guerre, lu ici par Jean Marais en 1947.
Si je mourais là-bas, sur le front de l'armée, tu pleurerais un jour, ô Lou, ma bien-aimée. Et puis, mon souvenir s'éteindrait comme meurt un obus éclatant sur le front de l'armée. un bel obus semblable aux mimosas en fleurs. Et puis, ce souvenir éclaté dans l'espace couvrirait de mon sang le monde tout entier, la mer, les monts, les vals et l'étoile qui passe, les soleils merveilleux mûrissant dans l'espace, comme font les fruits d'or autour de baratiers. Souvenir oublié, vivant dans toute chose, je rougirais ta bouche et tes cheveux sanglants. Tu ne vieillirais point, toutes ces belles choses rajeuniraient toujours pour leur destin galant. Le fatal giclement de mon sang sur le monde donnerait au soleil plus de vive clarté, aux fleurs plus de couleur, plus de vitesse à l'onde. Un amour inouï descendrait sur le monde. L'amant serait plus fort dans ton corps écarté.
Baratier, expliquez-nous.
Baratier, c'est le nom de la villa où Lou résidait, chez sa cousine, à Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est un endroit où il y avait des orangers, et donc c'était un peu le jardin des Hespérides.
Cette poésie est plus goûtée aujourd'hui que jamais. Elle a démontré sa pérennité magnifiquement.
Apollinaire est peut-être avant tout dans les esprits le poète de l'amour malheureux ou de l'amour flamboyant, comme c'est le cas ici.
De l'amour à distance, d'ailleurs.
Et de l'amour à distance, de l'amour écrit, de l'amour poétique, justement. De l'amour qui ne se chante jamais mieux que quand il est écrit, magnifié, métamorphosé, y compris aux dépens de la femme réelle, puisque Lou est une muse, sans doute, avant toute chose, une amante, une maîtresse, mais une muse aussi. Donc elle est elle-même métamorphosée.
C'est aussi l'histoire de Madeleine. Vous avez publié les lettres à Madeleine.
C'est aussi cette fiancée d'Algérie qu'il a rencontrée dans un train, avec qui il a parlé de Verlaine et de Villon, et qu'il revoit bien des mois plus tard, lors d'une permission, avec laquelle il s'est fiancé par lettre. C'était quelque chose qu'on faisait assez communément, justement.
Pendant la guerre en particulier. Pendant la guerre.
Voilà, exactement, on s'engage autrement. Cette guerre est une grande histoire d'engagement. Et la poésie pour Apollinaire est aussi une question d'engagement personnel. Donc les choses sont assez cohérentes, finalement.
Poésie très enracinée dans ce temps de vaillance et de douleur infinie. Et en même temps, touchant quelque chose comme une éternité.
Oui, c'est pour ça sans doute que ces poèmes nous touchent encore aujourd'hui. Ils sont si populaires et on l'entend très bien dans cette lecture de Jean Marais. On a le souvenir de Ronsard, des rythmes traditionnels de la poésie française, mais on a en même temps le choc des images. On a une ardeur érotique qu'on n'aurait pas retrouvée dans des poèmes antérieurs de la tradition française. Et puis la réalité de la guerre, et tout ça se télescope, tout ça se superpose, tout ça fusionne pour donner justement cette voix singulière à nul autre pareil et qui nous parle encore aujourd'hui.
Alors il y a Guillaume Apollinaire amoureux, avec cet érotisme immortel dont vous nous parlez, et puis il y a aussi le témoin de la guerre, telle qu'elle est, dans son horreur quotidienne, avec une acuité de regard, son horreur et en même temps tout ce qu'elle peut apporter à l'imagination du poète. Donc cette ambivalence formidable qui explique cette formule qu'on lui a tant reprochée, « Mon Dieu, que la guerre est jolie ». Ici, c'est un poème de 1915 qui s'appelle « Ilia », qui est lu par Jean-Pierre Mariel en 1967.
Il y a un vaisseau qui a emporté ma bien-aimée. Il y a dans le ciel 6 aux 6. Et la nuit venant, on dirait des asticots dont naîtraient les étoiles. Il y a un sous-marin ennemi qui en voulait à mon amour. Il y a 1000 petits sapins brisés par les éclats d'obus autour de moi. Il y a un fantassin qui passe aveuglé par les gaz asphyxiants. Il y a que nous avons tout haché dans les boyaux de Nietzsche, de Goethe et de Cologne. Il y a que je languis après une lettre qui tarde, il y a dans mon porte-carte plusieurs photos de mon amour. Il y a les prisonniers qui passent la mine inquiète. Il y a une batterie dont les servants s'agitent autour des pièces. Il y a le vague-mestre qui arrive au trot par le chemin de l'arbre isolé. Il y a, dit-on, un espion qui rôde par ici, invisible comme l'horizon, dont il s'est indignement revêtu et avec quoi il se confond. Il y a dressé comme un lys le buste de mon amour. Il y a un capitaine qui attend avec anxiété les communications de la TSF sur l'Atlantique. Il y a à minuit des soldats qui scient des planches pour les cercueils. Il y a des femmes qui demandent du maïs à grands cris devant un Christ sanglant à Mexico. Il y a le Gulf Stream qui est si tiède et si bienfaisant. Il y a un cimetière plein de croix, 5 kilomètres, il y a des croix partout, de ci, de là. Il y a des figues de barbarie sur ces cactus en Algérie. Il y a les longues mains souples de mon amour. Il y a un encrier que j'avais fait dans une fusée de 15 centimètres et qu'on n'a pas laissé partir. Il y a ma selle exposée à la pluie. Il y a les fleuves qui ne remontent pas leur cours. Il y a l'amour qui m'entraîne avec douceur. Il y avait un prisonnier boche qui portait sa mitrailleuse sur son dos. Il y a des hommes dans le monde qui n'ont jamais été à la guerre. Il y a des hindous qui regardent avec étonnement les campagnes occidentales. Ils pensent avec mélancolie à ceux dont ils se demandent s'ils les reverront. Car on a poussé très loin durant cette guerre l'art de l'invisibilité.
C'est assez moderne, n'est-ce pas, Laurence Campa, cette juxtaposition d'observations de choses vues et puis cette mosaïque qui se constitue peu à peu et qui offre en plénitude une vérité sur cette guerre.
Oui, tout est là finalement, l'amour, la guerre, l'humour, l'ironie, la mélancolie, et tout se mêle pour faire un ensemble à la fois étonnant et fluide. Cette fluidité dont il a le secret, y compris dans ses ruptures, c'est une sorte d'alliance tout à fait étonnante. Ce qui peut-être nous parle encore plus aujourd'hui, c'est que cette voix singulière rompt complètement avec le témoignage tel qu'on le connaît dans la prose. C'est-à-dire qu'on est très très loin de ceux de 14, du feu, des croix de bois, pour reprendre les exemples que je prenais tout à l'heure. On n'est pas dans la voix du témoin qui témoigne pour les choses, pour les autres, mais on est dans la voix singulière d'un poète dont les rythmes, les cadences, les images nous transmettent quelque chose du vécu de cette guerre et nous transmettent des sensations par un détour, en fait. C'est-à-dire qu'on est à la fois directement immergé dans l'expérience de guerre et en même temps, ce que Aragon appelle le raccourci de la poésie, nous plonge avec intensité dans une présence de la guerre qui n'est pas justement la présence discursive, narrative qu'on peut avoir dans les fictions dont nous avons l'habitude depuis 100 ans. Et c'est peut-être ça qu'on est en train de découvrir ou de redécouvrir et qui nous parle directement, peut-être plus directement que peut-être une narration plus classique dont on a déjà l'habitude.
Eh bien, grand merci, Laurence Campa, de nous avoir aidé à offrir cette contribution, grâce à Apollinaire, cette contribution au centenaire tel qu'il a commencé d'être déployé. Merci beaucoup. Votre magnifique biographie, qui est vraiment un opus magnum, s'appelle tout simplement Guillaume Apollinaire et vous l'avez publié chez Gallimard. Vous avez aussi offert, voici quelques années, un volume de la collection, la fameuse collection Découverte chez Gallimard. Et là, vous aviez pris un sous-titre qui nous convient bien dans cette émission, puisque vous avez appelé ce livre Apollinaire la poésie perpétuelle. Est-ce que je peux vous demander ce qui vous a attiré à l'origine vers Apollinaire? Est-ce que c'est son actualité? Est-ce que c'est la pérennité de son talent?
Non, c'est probablement la pérennité de son talent et de son univers. Et pour tout vous dire, et je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas-là, c'était un amour de jeunesse.
Vous trouverez naturellement d'autres livres et informations bibliographiques sur notre site avec les références des documents sonores très variés que nous avons utilisés. Et vous pourrez bien sûr écouter, réécouter et télécharger cette émission, d'autant plus que vous nous avez démontré, Laurence Campa, que Guillaume Apollinaire est éternel et voué à durer très 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 longtemps, son œuvre en tout cas. Samedi prochain, ce sera la première de nos rediffusions de l'été, avec Nicolas Werth qui nous parlera de l'Ukraine. Entre l'Est et l'Ouest, l'Ukraine déchirée. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, avec aussi Nathalie Lempereur, une émission réalisée par Patrick Molinier, avec Dofar Guéride à la prise de son, Nathalie Rouvillain à la discothèque, Gwen Michel pour les Archivina et aussi, comme chaque semaine, avec l'aide précieuse des documentalistes de la Bibliothèque de Radio France que je salue chaleureusement. Et dans quelques instants, vous allez retrouver, comme chaque samedi, Dominique Rousset pour l'économie en question.